Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 11 août 2007 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec pour commencer maintenant le supplément week-end avec l'actu BD, télé et sans ciné ou DVD. Thomas est parti en week-end, suivi de ça c'est du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie et bientôt des prétoires des tribunaux. Et ensuite à 16h Big Bang, 18h Vie d'ordure c'est du punk, 19h Mad in Trance c'est de la dance, non c'est de la techno, 20h c'est Zero Experience, 21h30 Stay Tuned, 23h c'est une nouveauté, c'est le retour du potager mais l'actu live donc, et en soirée ce qui est beaucoup plus calme. Du soir lui vient d'arriver, moi je suis un petit peu tout seul pour assumer la première partie mais je vous rassure c'est le supplément week-end. On y va, un retour un petit peu plus à la calme, à la cool. C'est vrai que la semaine dernière on vous avait assommé sous les news, là on va y aller beaucoup plus tranquillement, je vous rassure. Et aujourd'hui, en plus, je crois que ça va être une émission légèrement interdite aux moins de 16 ans. Ouais, je l'ai ressorti là, du bac à disque qui était collé quelque part dans les années 60, là. À la Maldone.
Take my chance on a beautiful stranger.
sport qui s'extasie devant une lecture conservatrice. Putain, mais c'est tellement dégueulasse qu'il y a des boutons qui pèguent. Moi je dis que les technoïdes c'est comme les punks, on devrait les passer à la brochette. Hein, parce que là, putain. Mais... Oh, mais là, piste CD2 inutilisable quoi, super. Oui, ça marche mieux évidemment si je monte le micro. Juste une chose à dire, Thomas s'est barré en week-end. Peut-être que vous le verrez, un festival qui a lieu ce week-end justement et dont on m'a perdu la feuille. Merci. Voilà, c'est un week-end. Ce week-end, donc, un festival qui a lieu dans l'Aveyron. Qui est un festival du court-métrage de Alette Les Bains. Ça, c'est... Vous pouvez avoir toutes les informations sur donc, ce 6e festival du court-métrage sur le site web ciné sans filet, F-I-L-E-T, toutattaché.com. C'est donc encore aujourd'hui et demain 60 films en compétition, en prix 7€. Sur deux écrans géants intérieurs et extérieurs, il y a buvette, vin et tout ce que vous voulez. Ce soir, à partir de 18h, un apéro-concert avec Nika et Down Processor. Et à partir de 21h, donc début des projections sur le programme court. Et dimanche, l'entrée est gratuite à partir de 15h, concert dont Intihuana. 17h, une projection avec un programme de cours spécial pour les petits mômes et petits et grands et adolescents. Et à 21h, remise des trophées aux films élus par le public avec des projections coup de cœur CSF. Donc il s'agit à côté de cela aussi de projections off, d'ateliers photo avec réalisateurs, photographes, peintres, comédiens, modèles. C'est le 6e festival du court-métrage à Alette-les-Bains. C'est donc jusqu'à demain. Et donc Alette, c'est dans l'Aveyron. Et tout le programme est sur Ciné sans filet, filet.com. Tout attaché, vous aurez donc la programmation complète. Je vous rassure, aujourd'hui, on l'a fait à la cool pour le retour du beau temps. Avec 3 BD, et puis après du sport, il m'a dit « Non, mais moi, je vais vous expliquer ce que c'est vraiment que le rock contestataire, le rock qui dérange et tout ça. » Oui, ça va changer un petit peu. Hein. C'est clair que Rage Against the Machine, ou encore... tous ces Sex Pistols et tout ça là, tous ces pseudo dérangeurs, c'est tout juste bon à être cité dans les chroniques de Télérama. Ça n'engage que moi évidemment, ces opinions. Hey Les sorties bande dessinée, on va commencer avec une nouvelle série qui s'appelle Helheim. Le premier tome, Le Passage, est scénarisé par Paul Oliveira et dessiné par Jean-Philippe Barada. Ça vient de sortir dans la collection Angle Fantasy chez Bambou Édition. Comme quoi, attention, Bambou Édition ne fait pas que du comics et de la bande dessinée de supermarché, loin de là. Syndrome du homard et besoin de se sentir différente. L'héroïne, personnage principal de l'histoire, Carol Ann Lewis, est persuadée qu'elle est spéciale. Oh, une adolescente américaine torturée par des cauchemars et persuadée d'avoir des pouvoirs très spéciaux. Bah, soit elle a trop lu X-Men, soit regarder Heroes lui a fait tourner la tête, quoi. La principale différence avec ses camarades, c'est qu'elle va perdre tragiquement sa mère. Par la même occasion, elle va enfin connaître son père, un antiquaire anglais. Ce qui veut dire, si elle veut vivre avec lui, déménager, changer d'univers, beaucoup de choses, mais peut-être rien quand elle va découvrir qu'elle pourrait entrer dans l'univers de ses propres rêves. En passant de l'autre côté du miroir, Carol Ann Lewis risque de se poser bien plus de questions qu'elle y trouvera de réponses. Un peu normal vu son nom. Graphiquement, c'est un peu statique, les décors sont parfois minimalistes, trahissant des manques, par exemple, on sent quand même des imprécisions dans les perspectives. Mais le dessin arrive à instiller l'angoisse, une peur indispensable pour que le scénario, enfin le malaise plus exactement, pour que ce scénario fasse réellement son impact. Des êtres horrifiques qui peuplent ses rêves prennent plus d'ampleur justement par la texture et couleurs et le dessin est pouillé. Helheim, le premier tome s'appelle Le Passage chez Angle Fantasy. Collection donc des éditions Bambou de Paul Oliveira et Jean-Philippe Barada. Barada vit à Toulouse, peut-être qu'on le recevra prochainement. Je rappelle aussi que si vous voulez retrouver une bonne partie des chroniques du supplément week-end ou laisser réécouter les précédentes émissions, voire laisser un commentaire, vous pouvez le faire. Vous allez sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net et vous tombez, vous cherchez supplément week-end, vous allez tomber sur le site de l'émission. Vous aurez donc les informations. On est encore en train de le fignoler, d'en rajouter des trucs dedans. Vous pouvez déjà laisser des commentaires, poser vos questions ouvertes à l'équipe. On sera un plaisir d'y répondre en direct, avec tout le sérieux et la rigueur qui sied à Radio FMR. D'ailleurs, méfiez-vous quand même de nos réponses, hein. Attention. Ou sinon, vous cherchez supplément week-end FMR ou supplément week-end MP3 et avec un peu de chance, vous allez tomber sur l'émission. Si vous cherchez sur Google, Yahoo, MSN Live, tout ce que vous voulez, vous tomberez très facilement dessus. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez lu les bouquins, si ça vous a plu, oui ou non. N'hésitez pas. Continuer avec une série absolument mythique au Japon, c'est un énorme classique qui arrive enfin en France, Fujiko F. Fujio, Doraemon. Le premier tome vient donc de sortir chez Kana. Alors, Doraemon, c'est un gros chat bleu de 129 kg pour 1m23, ouais, une belle bestiole, tu vois, hein. Une bestiole robot intelligente venue du 22e siècle. Mais que fait cet engin au Japon en 1970? Il est venu du futur pour empêcher le jeune Nobita de faire des dégâts à cause de sa maladresse. Car les petits-enfants des petits-enfants de Nobita en ont assez de payer les dettes laissées par leur aïeul. Alors ils ont réuni leurs économies pour construire ce robot, l'envoyer dans le passé pour empêcher Nobita de faire trop de grosses gaffes. Malheureusement, ça se demandait si Doraemon n'a pas comme un défaut de fabrication. Par exemple, des souris-robots lui ont grignoté ses oreilles. Et depuis, il a une peur bleue des souris. Doraemon est là pour aider Nobita à éviter les faux pas, bien souvent grâce à de fantastiques artefacts du futur. Le bamboucopter, la télé du futur, le laser reconstructeur, le criquet des aveux, ou encore les biscuits morphoses. Et là, si ces engins sont de très bonne facture, ils ont tous un inconvénient, et c'est objet à gag par excellence, bien évidemment. Doraemon, c'est une série qui est connue de tous les Japonais, qui a fait depuis 3 générations maintenant, et ben depuis 35 ans de présence dans les journaux et à la télévision, et ben, elle a été déclinée dans une collection incroyable de produits dérivés. Entre 1970 et 1996, 26 ans de longévité, et ben les 45 albums poche, merde, va falloir que je prévoie de la place dans les bibliothèques là, regroupent plus de 1000 historiettes. Gentillet, d'une morale soft et parfois éducative, cette manga est devenue une des bases de la culture japonaise, tout comme l'œuvre d'Osamu Tezuka. Et en cela, on voit immédiatement la filiation graphique qu'a Fujiko F. Fujio avec le dieu de la manga, ce qui en fait une bande dessinée très datée sur le dessin. Mais on le rapproche immédiatement des aventures Donald, par exemple, dans le journal de Mickey, ce qui donne un côté désuet et très agréable à lire. Doraemon, le premier tome est sorti chez Kana de Fujiko F. Fujio. Lamke, EO Memories, c'est un bouquin qui était vraiment attendu, qui vient de sortir dans la collection Made in Shikana, donc éditeur de manga. Mais là, il se trouve que Chris Lamke est un auteur belge, qui habite d'ailleurs à Bruxelles. Chris Lamke a fait dans la science-fiction gentillette dans les années 1980 avec Enfer Végétal et Quasar, notamment paru dans le journal de Tintin. Puis ensuite, il a viré dans le polar d'anticipation avec Alvin Norge chez Le Lombard en 2000. Et d'ailleurs, on l'avait interrogé à ce sujet dans Zéro à l'époque sur Radio FMR. Mais entre les deux, il a produit une manga de fesses pour le Japon qui est restée injustement non traduite en France. Plus de 10 ans après, l'erreur est enfin corrigée et l'histoire enfin conclue. Dobbs est un humain dévalué pour défaut génétique. Donc il se retrouve avec le rang peu convoité de code blanc de naissance. Le seul travail qu'il a trouvé est de conduire un camion spatial de minerai. Une chouette perspective de faire des va-et-vient entre mine et usine, mine et usine, mine et usine, encore, 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 encore. sans n'avoir connu d'autre horizon que celui de son copict. Pour son anniversaire, il décide de faire une entorse au règlement et de se programmer une halte non prévue, oui, au bar, maison close spatiale où il peut louer à l'heure une D-Lone, une pute synthétique. Ce n'est pourtant pas la bonne qui va lui être livrée dans son alcôve. Eileen est une D-Lone étonnamment entreprenante, allant jusqu'à violer un tabou en demandant à jouir, faculté interdite aux robots et réservée exclusivement aux êtres biologiques. Mais Lynn n'est pas qu'une vulgaire réplique d'ancienne femelle humaine. C'est aussi le testament de Dorian Dorian, l'inventeur du moteur à muon. Et la mémoire cachée en son sein, n'apparaît que quand Lynn jouit. Oh oui. Plus elle jouit fort, plus longtemps la mémoire apparaît. Tiens, c'est marrant d'ailleurs à ce sujet, parce que je lisais hier une étude très intéressante sur le fait que le cerveau des femmes se déconnecte pendant l'orgasme. Et je vois que tout le monde s'en fout. Bon, c'est pas faute d'avoir essayé de vous éduquer, d'avoir mis un peu de culture dans cette émission. Ok. L'escapade de la poupée ne passe pas inaperçue et Dobbs s'enfuit direction le 7e ciel. Pardon, donc il s'enfuit donc en 4e vitesse pour échapper à des méchants très puissants qui voudraient récupérer cette pompe à... qu'est-ce que j'allais foutre dire là ? Heureusement pour Dobbs et Lynn que la mémoire est là pour les aider. Dobbs est donc condamné à aimer, à faire jouir, à aimer et à faire jouir Lynn s'il veut échapper à tous ceux qui veulent cet héritage. Chris Lamke a fait un peu de recyclage avec cette série qu'il a complété exprès pour le marché francophone. Ainsi, la cyborg Lynn, l'heureux Dobbs et le personnage de la série Quasar, eux se sont réincarnés graphiquement dans Alvin Lange, qui est une série donc qui est publiée chez Lombard. Mais si cette dernière série est un vrai polar haletant, Io Memories n'est qu'une pantalonnade jouissive et déshabillée. Néanmoins, cette histoire a fait date, puisqu'elle fut une des premières à être publiée par Kodansha, l'éditeur à l'époque numéro 1 au Japon, justement en bande dessinée. Un éditeur qui cherchait à renouveler le manga parce qu'il craignait que cela tourne un petit peu en rond, justement ce dont on parlait avec Doraemon, comme quoi s'il y avait une filiation graphique qui était trop évidente entre tous les dessinateurs et que ça manquait un peu, je dirais, de création de ce côté-là. Et donc ils avaient décidé de faire venir des dessinateurs européens et de tous ceux qui se sont lancés dans cette expérience, c'est-à-dire de dessiner pour le marché japonais, une expérience assez audacieuse pour les dessinateurs européens dans un marché qui justement est plutôt assez restrictif pour les produits étrangers. Et ben Baru, Farid Boudjela, Lewis Trondheim, le seul qui a pu s'y implanter, c'est un certain Frédéric Boilé, qui raconta ses amours, mais sans artifice, genre science-fiction et tout le reste, et en fondant la tant attendue nouvelle manga. Your Memories, de Chris Lamke, vient de sortir donc enfin en édition complète, à moitié traduite, à moitié originale. C'est dans la collection Made In, qui est une collection adulte au sens de histoire, complète et instructive, chez Kana. Non, je me suis pas arrivé, c'est ça ?
Non, mais je regardais les autres bouquins parus et c'est dans la même collection que le Quartier de la Lumière, hein, qui vraiment est un bouquin terrible. Ouais, c'est excellent.
C'est là où je disais que c'était une collection adulte. Voilà, justement, quand même. Sur le scénario, quoi.
Bon, c'est pas parce qu'il y a des nanas à poil. Hein,
donc je rappelle que le Quartier de la Lumière,
c'est le sujet, quoi.
Le Quartier de la Lumière, c'est le bouquin de l'été pour du sport. Voilà.
Ah ouais, peut-être de l'année. Hein. Peut-être de l'année. Hein.
Ah, tu vas me faire voter pour alors au prix de la critique.
Hein. Ah bah on verra. Hein.
Bon,
bah,
d'accord. Donc Chris Lamke, Your Memory, c'est notre safe for work hein, quand même, on vous le signale. 12h24, on va pas se faire chier, tiens, on va foutre une double prog. Danzo Automator, extrait de Love Age. Je ne sais pas, j'ai pris le morceau au hasard. Everyone has a summer.
When a man needs a woman's love so much, in a beautiful love story, not all love is beautiful.
It's the strangest music to make love to.
Passion-filled rendezvous, heart-wrenching goodbyes,
a memory of love. Love.
It's the way I've always wanted it to be, love.
Cause that's pain. Baby, I don't care who you are.
We're not
in particular he uses in his romantic campaigns.
The phone bill is going to be enormous, you know that.
Everyone has a summer they want to remember.
The world is not kind.
Dance Automata and Kid Koala, Get Gone, have a Summer. Celui de Miss Kitty in Kiss Factory, c'est ce supplément week-end sur Radio FMR 89.1 MHz. Et de suite, il est midi 32 minutes. Il y a un régie final qui m'appelle. Coco, c'est peut-être l'heure de passer la pub.
J'aime prendre des douches érotiques, alors j'utilise le gel douche Chantal Garcelle, 3,70€ ce flacon de 2 litres, le gel douche Chantal Garcelle, je ne pourrais pas m'en passer.
Salut, c'est Laetitia. Tu veux discuter avec moi ? Appelle-moi maintenant.
Oh.
Appelle-moi maintenant.
Oui.
Appelle-moi maintenant.
Oh.
Appelle-moi maintenant.
Oui.
Appelle-moi maintenant.
Oh.
Je t'attends.
Oui.
Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps.
Tu recycles ?
Ouais.
Hein ? Ouais, j'ai compris. Ouais.
C'est du sport qui a la zapette. Bonjour, Duss.
Salut. On va recycler pareil, hein. De toute façon, je vous ai dit la semaine dernière qu'il n'y avait pas grand chose à se mettre sous les mirettes, qu'on n'essayait pas vraiment de faire dans la nouveauté, hein. C'est normal, les gens sont en vacances, on n'a rien à foutre, hein, de gamberger, ils préfèrent laisser les neurones se reposer, tout le reste d'ailleurs aussi. Et donc, c'est rediff, mais de temps en temps, on peut tomber sur des trucs pas trop mal, pas trop dégueulasses. Alors, sur TF1, comme d'habitude, le samedi soir, c'est Heroes, avec ce soir, je le dis ou je le dis pas? Je crois que c'est ce soir, dans le deuxième épisode, qu'on va apparaître Linderman, pour de vrai, hein, la tronche à Linderman. Celui dont on parle depuis le numéro 1 de Heroes. Et bon, vous serez pas surpris.
Le pseudo mec mafieux super puissant qui se fait arnaquer,
voilà,
par tout le monde.
Voilà, c'est
donc
ça.
Donc c'est une cave, ce type.
Celui qui a acheté le tableau, celui qui a la réplique originale du sabre. De
celui
Samouraï.
Qui s'est fait piquer 2 millions, 500 000, voilà. 2 millions, 1 million, et qui subventionne 2.
Voilà, celui qui a fait filmer Nathan et Jessica en train de faire hop hop. Non, c'était pas Jessica, c'était Nikki. Nikki ou Jessica, on
c'était
sait plus.
Jessica.
On sait plus. On
non,
sait
c'est
plus.
Jessica.
Mais oui, bien sûr. Et il est tombé dans le piège. Impeccable. Bref, en principe, on doit l'avoir arrivé là lors du numéro 16. Et, vous avez repéré la dernière fois l'apparition de Sulu, bien sûr. Ouais. Et il parle bien japonais quand même, hein, pour
je l'ai pas trouvé. Il parlait si bien, autant que ça en japonais.
Ah non, mais bon, c'est normal. Il est pas japonais, il est américain.
Mais je sais bien.
Alors Heroes, et après Heroes c'est bien parce qu'il n'y a plus que deux épisodes par samedi soir, donc ça fait que New York spécial, unité spéciale, bah c'est plutôt le soir. Ouais, c'est génial, c'est excellent, c'est très bien. Alors on nous avait promis des épisodes inédits parce qu'on sait très bien que TF1 fout le bordel et passe toutes les séries de Law and Order, hein, que ce soit unité spéciale, que ce soit police criminelle ou la série originelle, hein, c'est-à-dire New York District comme ils disent, ou New York Police Judiciaire, comme ils l'appellent aussi de temps en temps, ils les passent vraiment dans le désordre, ils n'ont rien à foutre des saisons, la suite et tout, non, rien à foutre, c'est pas grave, ça sert à rien, ça vaut rien, c'est
non,
de
mais
la merde.
Comme ils ont dit en interview, ils ont eu le culot de dire non mais ça intéresse pas le spectateur, hein, de suivre une série,
non,
c'est
non,
juste
non,
regarder de temps à autre.
Ouais, voilà. Mais c'est ça, quoi. Alors, quand, voilà. Ouais, mais bon, ça contredit le fait qu'ils puissent en passer plusieurs à la suite, hein. Si encore ils en passaient qu'une, sériellement, tu vois.
Je sens qu'on va relancer une croisade. Hein.
Ça irait, parce que les gens, d'une semaine à l'autre, ils ont oublié, quoi, ce qui s'est passé. Ça, y a pas de problème, quoi. Mais quand t'en passes deux à la suite, et qu'il y a même pas de pub entre les deux, hein. Je sais pas si t'as remarqué, hein. Les pubs, ils les mettent pendant. Mais entre les deux, c'est hop, direct, t'as le générique de fin. Et tac, tu démarres direct sur la suivante.
Attends. Alors, avec le résumé. Ah ouais. Avec le résumé de l'épisode que tu vas voir.
Ça, le trailer, c'est le truc obligé parce que c'est le truc américain. Parce que les ricains,
ils en passent pas deux à la suite.
Non, mais le trailer est fait pour les ricains, si tu veux, quoi. Parce que les ricains, les chaînes de télé américaines, se disent que les gens n'ont pas suivi le précédent ou ils essaient d'accrocher les gens qui n'ont jamais vu la série. Ils se disent, ouais, ceux-là, ils ont jamais vu la série. Donc, pour les accrocher, il faut vraiment foutre un trailer avant pour qu'ils s'y intéressent, pour qu'ils partent pas sur une autre chaîne. Et c'est pour ça qu'on fout le trailer toujours avant.
Vu comment ils coupent les épisodes, ils pouvaient supprimer le trailer. Surtout que les bandes qui reçoivent, il n'y est pas le trailer.
Et ouais, mais bon.
C'est eux qui le font.
Et oui, mais bon, hein, qu'est-ce que tu veux, quoi.
Pas classe.
Alors, donc ça les gêne pas, hein, par exemple, d'avoir le district à tourner qui change, quoi. C'est-à-dire un coup c'est la brune, et clac, l'épisode d'après c'est la blonde. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas. En plus, la brune, elle vient après la blonde, tu vois. Alors, et puis, dans l'épisode, en fait, c'est l'inverse, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait rien. On s'en fout. C'est pas ça. Ce soir, donc, deux épisodes soi-disant inédits. Alors là, accroche-toi, Jeannot. C'est des conneries, hein. C'est pas vrai, hein. C'est des épisodes déjà vus. Le premier à 22h25. Un geste de trop qui est moins 10, c'est-à-dire cool, ils vont pouvoir le repasser le dimanche après-midi. avec Beverly D'Angelo en tant que guest invité. Mais le deuxième a l'air plus intéressant et est nettement plus intéressant parce que il s'appelle Dangereuse Initiation. Moins 12 et il y a la présence de Serena Williams. Ouais, ouais, mon gars. Et de Gary Cole. Waouh. Alors là, on est d'accord. S'il y a Gary Cole, on est Gary Cole. C'est le mec de Wanted.
Mais
le patron de Wanted. Eh ouais, mais attention, parce que là, bon, bah, il est pas du bon côté. Et c'est également le boss, enfin, le personnage principal de cette excellente série qui a été sabrée par la télé américaine au bout de 22 épisodes, qui s'appelle American Gothic. Et qui est rediffusée par Syfy à partir de demain soir, 22h25.
Wow, la transition.
T'as vu ça? Et qui est rediffusée demain soir sur Syfy après, à 22h25. Après le film du dimanche soir sur Syfy, et là tu vas sauter en l'air, tu vas dire putain j'ai pas Syfy, j'ai les boules, c'est Cowboy Bebop demain soir.
Non, déjà passé sur CinéFX ce mois dernier.
Ah ouais, mais ça fait rien, pas sur Syfy, donc demain.
Oui, je l'ai vu le film.
Ouais, ben voilà.
Donc faut savoir que le film est un film en animation qui a une histoire originale et qui se passe avant les deux derniers épisodes du final. Mais qu'on peut le voir indépendamment, c'est vraiment un très très bon polar. C'est pas les épisodes comiques et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez trippant. Voilà.
Ensuite, dans la série, les bons petits polars qui sont complètement salopés par les chaînes qui les diffusent. Alors là, la palme revient quand même à France 2 qui nous a diffusé The Nine. Cette excellente série qui a également été sabrée par la télé américaine parce qu'ils en ont diffusé que 13, hein, il n'y avait que 13 numéros, puis ah, dégagé, oh, c'est trop compliqué, on fait chier, on comprend rien du tout. C'est vrai que c'est assez ardu quand même, hein, le pitch est très simple, il s'agit de l'histoire de 9 personnes après un hold-up qui a duré 52 heures. Un hold-up de 9 personnes dans la
avec les deux
braqueurs. Y a deux morts d'ailleurs, hein. Y a un gardien qui se fait descendre plus une employée de la banque qui se fait descendre. Il en reste 9 et au bout de 52 heures, bon, la police donne l'assaut et puis hop, ils capturent les deux mecs et ils libèrent les otages. Et c'est toute l'histoire de ces 9 personnes dans leur vie quotidienne d'après ce hold-up. Et c'est vachement bien foutu. C'est vraiment nickel, hein, avec Tim Daly dans le rôle du flic qui s'est fait choper. Il ramène son chèque de paye à la banque. Il se fait prendre dans le braquage, le truc con, quoi, tu vois. Il y a Kim Raver également, qui elle est district attorney, c'est-à-dire procureur, quoi, on va dire, un procureur de la République, hein, et qui accompagne sa mère pour pareil déposer du fric. Et puis moi, je vais prendre en otage.
Ça, c'est fou ce qu'il y a comme flic juriste aux États-Unis.
Non, mais bon. Donc, il y a également tous les autres personnages. Il y a également un mec Scott Foley, un type qui était dans la vie à 5, j'ai pas noté son nom quoi, mais bon là qui joue le rôle d'un médecin avec sa nana qui est enceinte de lui mais qui lui a pas encore avoué, qui allait lui avouer mais bon comme il y a le braquage et tout bah voilà hein, c'est con hein, c'est et bon ben il reste beaucoup de zones d'ombre en fait de ce qui s'est passé durant ces 52 heures. C'est-à-dire qu'il y a eu des otages qui ont été séparés, il y a la fille du directeur de la banque qui s'est planquée dans la banque, qui découvre que par la suite, c'est-à-dire au bout de quelques heures de prise d'otage, il découvre qu'elle est là parce qu'elle, elle a un téléphone, elle veut s'en servir pour appeler les flics, c'est elle qui appelle les flics et tout. Alors une scène gag assez incroyable de comment elle arrive à utiliser le téléphone et tout, c'est vraiment très très bien foutu. Hein. Et bon, bah, au fur et à mesure de ces 13 épisodes, eh bien, on arrive à déterminer un petit peu ce qui s'est réellement passé, parce que la zone d'ombre, c'est vraiment tout ce qui s'est passé à l'intérieur et toutes ces histoires de non-dits, avec bien entendu en parallèle, eh bien le jugement prochain des deux braqueurs. Hein, alors il y a également l'histoire un petit peu rigolote hein, d'un des deux braqueurs qui va crever parce qu'il est malade et tout, et son frère, parce que ce sont deux frangins en plus, et donc son frère accepte de lui donner son rein parce que sinon il va crever et tout. Mais le mec, de toute façon, il va certainement en prendre pour très très longtemps. Un des deux braqueurs, un des deux frangins donc, est un type qui revient de l'armée, qui revient d'Afghanistan ou d'Irak, où ça a été un militaire décoré et tout. Enfin bon, le mec incroyable et tout. Mais, et c'est vachement bien foutu, c'est vachement bien rendu. Malheureusement, bon ben, ce qui se passe, c'est que ça s'arrête au bout de 13 épisodes. On a vu les 12 premiers dimanche très tard le soir sur France 2, à partir de 23h10. Hein, alors les boules, après 3 épisodes d'urgence, hop, tu te tapes encore 2 épisodes de The Nine, tu vois. Enfin, tu vois le genre, c'est marathon un peu. Ouais, c'est un peu dur. Surtout que bon, voilà, c'est vraiment assez complexe, hein, je veux dire, il y a beaucoup d'éléments, il y a 9 personnages qu'il faut suivre, hein, 9 personnages principaux, donc ça fait quand même pas mal. Et là, bien, demain soir, 23h10, eh bien, c'est le 13e et dernier épisode de cette série magnifique. Alors, Tim Daly, est-ce qu'il va enfin niquer Kim Raver? On se le demande. Eh ben, moi, j'aimerais bien quand même. Mais Kim Raver, elle hésite parce que Tim Daly, c'est un mec charmant et tout, beau gosse, tombeur et tout. Ouais, vraiment, le genre idéal, quoi. Mais bon, il est flic en plus, tu vois. Enfin, bon, et à la suite de cette prise d'otage et tout, lui qui était un petit peu mal barré parce que bon, ben, il était considéré quand même mec qui boit, son père est mort. Dans un braquage alors qu'il était complètement rond, il joue pas mal, dès qu'il a un moment de libre et tout, hop, je téléphone à mon bookmaker, enfin tu vois, personnage pas trop recommandable et tout. Et puis bon, après le braquage, et hop, il se fait catapulter chef de la brigade et tout, tu vois, bonne promotion, enfin bon, le truc vraiment nickel et tout, alors qu'il a plus ou moins rien à foutre, il pense à autre chose. Et bon, bah, il a quand même quelques rapports avec la procureure, hein, Kim Raver qu'on a vu dans 24, dans 911, enfin bon, dans de bonnes séries. Et elle l'a vu également jouer, et puis ça lui a pas plu du tout la manière dont il joue aux cartes, tu vois. À un moment il joue au poker et tout, puis bon, la manière qu'il a de vraiment flamber à fond les manettes, hein, de tout jouer sur un coup de dé comme ça, enfin sur un tour de cartes, ça lui a pas plu du tout. Alors parce que elle était prête de craquer, vraiment elle allait craquer, et pourtant elle a un mec régulier, hein, pas de problème, hein, qui bosse avec elle sans problème. Mais elle a d'autres problèmes parce que bon, son mec en principe devait être promu et devait faire campagne pour être élu attorney général, hein, c'est-à-dire l'équivalent du ministre de la justice dans un état américain, hein, d'ailleurs le gros patron de toute la justice. Et en fait le maire de Los Angeles l'a choisi elle par rapport à son mec, tu vois. Alors bon, en plus, bon, ça fout un petit peu le bordel dans leur couple, tu vois, du fait que le mec, il se décide à aller voir ailleurs, si j'y suis, c'est-à-dire à aller bosser à Chicago, si jamais il trouve du boulot par là-bas. Et tout ça, on va peut-être le voir demain soir, hein, dans ce 13e épisode de The Nine. Une excellente série. Bon, alors, c'est un petit peu dommage, hein, si vous avez loupé les 12 autres, ça va pas le faire tellement. Mais quand même, ça se laisse vachement bien regarder. Alors c'est demain soir sur France 2 à partir de 23h10, après les 3 épisodes d'Urgence saison 13. Alors moi je voudrais quand même dire quelque chose sur Urgence saison 13, parce que les saisons précédentes, bon, ça sentait vraiment le caca. On se disait bon, bah ok, ils en ont plus pour longtemps, ça va, on a compris, dégagez, il vaut mieux que vous arrêtiez sur une bonne note, parce que là bon, vous êtes en train de partir en couille, mais alors vitesse grand C. Et la saison 13, on reste bluffé quand même, hein. Je peux dire que je me suis remis à regarder Urgence, et puis là je suis vraiment pas déçu. Il y a eu l'arc d'histoire avec Forest Whitaker qui est vraiment très intéressant, hein, la confrontation entre Kovac et Forest Whitaker,
très très bien.
Ah ouais,
hein. Ah ouais, très très bien, hein. Vraiment pas de problème, hein. Excellent. L'arc d'histoire, enfin l'histoire personnelle de John Stamos qui vraiment prend de l'importance dans cette saison 13 d'Urgence est pas mal du tout aussi. Et l'apparition de du directeur de la prison de Prison Break, Stacy Keach, qui est apparu dimanche dernier, qu'on va revoir demain soir. Alors rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder un petit peu Urgence, non ? C'est demain soir donc sur France 2 à partir de 20h50. Et je le rappelle, donc n'oubliez pas, à partir de 23h10, The Nine, le dernier épisode, le 13e épisode qui s'appelle Les Aveux. Ensuite, toujours Jardin Secret sur Fox Life, le mardi à partir de 20h45.
Ah non !
Alors,
ah non !
Comme il n'y a que 8 épisodes par saison, là c'est la deuxième saison. Mardi dernier, on a pu voir les 3 premiers épisodes de la deuxième saison. Bon, c'est un petit peu moins enjoué, je dirais, que la saison 1. Là, ça m'a un petit peu déçu quand même, hein, ce début de saison 2. Bon, on apprend quand même qui c'est qui a filé coup de batte de baseball à Claire Van Kampen pour qu'elle tombe dans la piscine. Même piscine dans laquelle son mari est mort lors du premier épisode de la première saison. Mais bon, la révélation est assez surprenante quand même. Mais bon, ça reste un petit peu en deçà. Il y a quand même toujours toute cette série de gags, cette série de situations un petit peu détestables, un petit peu rigolotes entre les différents protagonistes. C'est vraiment très très rigolo, hein, il n'y a pas de problème. Ce que j'avais oublié de vous dire la semaine dernière, hein, c'est que le mari de Wilhelmine, qui s'appelle Evert dans la version originale, et que les Français ont traduit par Édouard, hein, c'est peut-être la traduction exacte d'ailleurs, hein, c'est le sosie parfait de François Fillon. Alors t'imagines notre Premier ministre dans cette situation là. Alors là nous quand on voit ça, on se fend la gueule chaque fois qu'il apparaît à l'écran.
Enfin dans ta gueule.
Il s'est fait virer de par sa femme qui veut divorcer et tout, la grosse, hein, la maîtresse de maison parfaite, la mère parfaite et tout, qui d'ailleurs déclare dans un des épisodes, parce que Cheryl Morero, elle va bientôt accoucher, et elle demande, ouais, mais pendant que vous étiez enceinte, vous continuez à faire crac-crac et tout. Alors bon, bah t'as Suzanne Visser, c'est-à-dire Anouk, qui passe, qui tire tout ce qui se bouge, qui dit, ah ouais, encore plus, et putain, moi j'avais les seins qui avaient grossi et tout, super génial et tout. Et t'as l'autre, il dit, l'autre Wilhelmine qui dit ah ben non, maintenant tu vas commencer à comprendre ce que c'est d'être une mère et de commencer à t'occuper de tes enfants, de faire le ménage et tout ça. Enfin bon, rien que pour des trucs comme ça, ça reste encore une série vraiment regardable, hein, Jardin Secret. Donc sur Fox Life, mardi prochain, l'épisode 4 et l'épisode 5. Il n'y a plus que 2 épisodes mardi prochain et mardi d'après, c'est-à-dire dans mardi en 8, avec les 3 derniers épisodes de la saison 2. Il y a également la rediff de Jardin Secret, les 3 premiers épisodes de la saison 2. C'est demain soir sur Fox Life à partir de 20h45. Le même horaire, hein, que mardi prochain pour l'épisode 4 et l'épisode 5. Ensuite, on a, eh bien, d'une part, la rediffusion d'une série qui est absolument géniale, hein, c'est dans les petites séries qui font 25 minutes, le format, demi-format, hein, d'un épisode normal. Pour une série classique américaine, là, comme ce sont des comédies humoristiques, le même style que My Name Is Earl ou Mon Oncle Charlie, hein, c'est-à-dire c'est des 25 minutes, donc, hein, et bon, ben, ça va tout à fait. Et là, il s'agit de cette excellente série humoristique médicale qui s'appelle Scrubs. Scrubs, dont, alors là, bon,
c'est justement dans le même registre point de vue humour. Hein.
Là, il y a rien à dire. Hein, c'est une série qui est regardable du début jusqu'à la fin. Il y a même la version française qui fait rire. Hein, c'est pour dire quoi. Et pourtant, on perd beaucoup. On perd beaucoup quand même, hein, de la traduction. Mais ça reste vraiment une série super regardable. Hein, pour, on voit que c'est une série qui a été faite par des geeks. Au fait, le mec qui est un peu geek, quoi, tu vois quoi. C'est-à-dire qu'il y a des putains de références. La culture américaine à fond les manettes, un épisode avec Star Trek et tout, enfin bon, des trucs délirants quoi, vraiment délirants. Alors ça raconte l'histoire de deux internes qui rentrent le premier jour, donc le pilote de la première saison, deux internes qui rentrent dans l'hosto et qui vont faire leurs armes et tout, un petit peu comme dans Urgence, hein, pareil, sauf que bon, ben, c'est passé à la moulinette, du rire, des fois aussi des larmes, hein, parce que bon, ben, c'est aussi une série qui a une petite tension dramatique, hein, faut pas oublier que ça reste dans le milieu de l'hôpital, donc ça veut dire maladie, ça veut dire mort, et tout ça. Donc on sait jouer agréablement, passer d'un registre à l'autre, c'est vraiment la marque des très très grands, hein, je le dis franchement, quoi, de toute façon. Scrubs est une des meilleures séries humoristiques du moment, de toute façon. C'est sur Paris Première, donc, alors, qui a la bonne idée de rediffuser
toutes les saisons, à partir de la saison 1, à partir de lundi, de 19h10 jusqu'à 20h20, c'est-à-dire 3 épisodes à la suite. Hein, donc lundi, ne loupez pas le pilote, ça vous aidera un petit peu à comprendre et à situer un petit peu les différents personnages. Hein, c'est toujours les mêmes personnages principaux, il n'y a pas de problème avec Zach Braff dans le rôle principal. Surtout, ben, comme c'est une série qui, au bout d'un moment, a vraiment fait péter l'audimat du côté de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, tout de suite, bon, bah, il y a des guests qui ont voulu venir et tout, génial. Alors bon, on voit apparaître dans la saison 3, par exemple, Christopher Meloni dans le rôle d'un toubib pour gosse. Absolument génial, quoi. Génial. Alors, vraiment génial. Alors, rien à voir avec le rôle qu'il a dans New York Unité Spéciale. Tu le vois, New York Unité Spéciale, le mec vachement à cheval, vachement dur et tout. Puis, alors là, délirant à fond les manettes. Brandon Fraser également, hein, qui apparaît dans 2-3 épisodes, dans l'espèce d'arc qui lui est consacré, qui est vraiment très très bon, hein. Bon, Brandon Fraser, de toute façon, est toujours très très bon. Et, c'est aussi pour vous dire que M6, qui diffuse également cette série, bien, diffuse à partir de vendredi prochain. Mais alors là, pareil, en la sabrant, comme ils ont sabré la deuxième saison et qu'ils vont bientôt sabrer la troisième saison, enfin ce qu'il en reste de Véronica Mars, en la diffusant n'importe comment, à une heure indue. Là, ce sera vendredi prochain à partir de 5:00 qu'on pourra voir la quatrième saison de Scrubs, avec là également beaucoup de beau monde. Juliana Margulies, qu'on avait déjà vu, hein, dans une saison précédente, qui joue le rôle d'une avocate et qui est une des toubibs de Urgence au départ. Hein. Rappelle-toi, Juliana Margulies, tu te rappelles? Ah ben, celle qui était la copine du Dr Ross. Ah ouais, à fond, à fond, à fond, à fond. Il y a également Heather Graham, Colin Farrell, Matthew Perry qui interviennent dans la saison 4. Alors tu vois, ça veut dire ouais. Bon, attends, pas de problème, quoi. Tout ça, donc, c'est sur M6, la quatrième saison, vendredi prochain, à partir de 5:00. Ou alors, si vous n'avez pas du tout suivi cette série, bah laissez-vous bercer, hein, par dès lundi sur Paris Première à partir de 19h10, le pilote de cette émission. Et donc tous les jours de la semaine, 3 épisodes à partir de 19h10 jusqu'à 20h20. Je l'avais noté la semaine dernière, hein, là je passe du coq à l'âne. Je l'avais noté la semaine dernière à propos de, et puis bon, comme on avait vachement tardé la semaine dernière, carrément une page que j'ai pas faite, hein, je sais pas si vous en êtes aperçu. Carrément, j'ai droppé, j'ai dit bon, laisse tomber, 35 ça va aller. Mais par contre, il y a la rediffusion conjointe sur France 2 et sur France 4 de FBI Portée Disparue, oui, dont on peut voir un épisode original.
Dont France 4 en VO, attention.
Et donc, on peut le voir sur France 4 en version originale. Et bon, il commence
Je crois que c'est toujours charcuté, par contre. Hein. Je crois qu'il y a un peu de censure.
Peut-être, mais enfin bon, là, on se rend compte que la traduction, c'est pas ça du tout. Que ça me fout vraiment les boules. Qu'il y a vraiment pas trop de justesse dans les tons qui sont employés, quoi, dans la version traduite. Bon, vraiment, Anthony LaPaglia en version originale, ça vaut vraiment vachement plus le coup, il n'y a pas de problème. Donc c'est tous les mardis à 22h20 sur France 4 en version originale, hein, FBI Portée Disparue, Without a Trace dans la version originale, avec 2 épisodes samedi, mardi prochain, donc Une Petite Ville Brinde bien tranquille et Course contre la montre. Sinon, il y a également CSI Miami, jeudi prochain. Alors bon, c'est la série des CSI que les gens préfèrent le moins. C'est-à-dire que bon, dans l'ordre,
je trouve que Manhattan est peut-être plus mauvais.
Dans l'ordre, non, enfin bon, dans l'ordre, il y a bon, William Peterson, Las Vegas,
l'original,
qui se détache du lot, l'original, qui bon, mais au-dessus, parce que bon, vraiment, l'ensemble de l'équipe avec les différents personnages, ben, ont su trouver leur marque. Et puis bon, il y a quand même la présence de William Peterson, il n'y a pas à chier, quoi, de toute façon, quoi. Ensuite, bon, Manhattan est pas mal parce qu'il y a un espèce de ton un peu plus sombre comme ça, quoi, même si l'interprétation de Gary Sinise peut laisser peut prêter à discourir, hein. mais bon, ça n'en reste pas moins quand même une bonne série, moi je trouve, hein, parce que bon, ben, les histoires sont relativement intéressantes. Par contre, CSI Miami, bon, l'interprétation de l'autre rouquin, là, je sais même plus comment il s'appelle, tu vois, quoi, tellement j'ai les boules quand je regarde cette série.
Ouais.
Horatio Caine, quoi, ouais. le personnage.
Ah, oh, putain, je
David Carrizo.
Oui.
Bon, vraiment, bon, ça va, quoi, ça suffit, quoi. Bon, faut pas déconner. Par contre,
il est très très fort pour une seule expression. C'est le regard vers le bas. J'enlève mes lunettes.
Je penche la tête comme ça et tout.
Je remonte et je dis, vous avez commis une erreur.
Ah ouais, mais attends, parce que le penchement de tête au départ, hein, c'était quand même George Clooney dans Urgence, quoi.
Oui.
Genre, je regarde mes notes, quoi, parce que j'ai oublié mon texte. Alors jeudi prochain, 3 épisodes donc de CSI Miami à 20h50. Mais ne loupez pas le premier parce qu'il y a une de mes chéries, une de mes favorites dedans. Bon là, elle a pris un petit peu de la bouteille, hein, elle a des années de vol, mais c'est pas grave, ça reste quand même une référence absolue. Celle qui se tape quand même, qui se tape son frangin quoi dans l'excellente série qui s'appelle Wise Guy, Joan Severance. Dans en plein vol, le premier épisode de CSI Miami avec Greg Evigan en plus quoi. Joan Severance quand même quoi. Mais si, un flic dans la mafia.
Celle qui se tape là le cul de jette.
Mais non, qui se tape son frangin.
Il faudrait que je me les re-regarde.
Ah monsieur. Bon, laisse tomber. Ensuite, il y a Je teste et mort, moins 10 et Un porc meurtrier, moins 12. Hein, tout ça dans CSI Miami, donc à partir de 20h50, jeudi prochain, sur TF1. Et maintenant, un petit peu de musique, s'il te plaît.
D'accord, donc alors le CD, c'est...
Le numéro 15. On prend le train.
Voilà, comme j'ai pas les notes de du sport, je sais pas des fois quand est-ce qu'il faut mettre les morceaux. Zou.
Is this train the Frankfurt special?
Yeah.
Ain't this outfit something special?
Yeah.
We heard rumors from the bases.
Yeah.
Frankfurt girls got pretty faces.
Yeah.
Go special, go. Blow whistle, blow. Frankfurt special's got a special way to go.
Whoa.
When we get to our headquarters,
yeah.
Be good boys and follow orders.
Yeah.
Don't take girls from one another.
Nine.
Treat a sailor like a brother.
Yeah.
Go special, go blow with some blow. Frankfurt special's got a special way to go.
Whoa.
Around we'll singing along by track.
Clickety-clack,
clickety-clack. Boiler busted a blowing stack.
Clickety-clack, clickety-clack.
Towns and villages flying by.
Fly by.
Farewell for all and don't you cry. You'll soon get another GI. Come to train and get to let out.
Yeah.
One more day we gotta sweat out.
Yeah.
Frantic Fräulein's at the station.
Yeah.
Ready for a celebration.
Yeah.
Go special, go. Blow as a blow. Frankfurt Special's got a special way to go. Come on, train and get the lead out.
Yeah.
One more day, we gotta sweat out.
Yeah.
Frantic Fräulein's at the station.
Yeah.
Ready for a celebration.
Yeah.
Go special, go. Blow a whistle, blow. Frankfurt Special's got a special way to go.
Whoa. Whoa.
C'est parce que c'est pas le morceau original, c'est pour ça que ça part un petit peu en couille et tout quoi. Mais bon, la version est plus rapide hein, donc de Frankfurt Special de Elvis Presley. Car vous n'êtes pas sans savoir que la semaine prochaine, jeudi prochain, on sera le 16 août. Et le 16 août, qu'est-ce qui s'est passé en 1977?
Je sais pas, il a pris un express pour la planète Solaris en partant de l'aéroport 51 de Las Vegas.
Exactement. Alors on l'a retrouvé gisant la gueule contre le carrelage devant ses chiottes avec le fut baissé. Et d'ailleurs la nana qui était avec lui à cette époque-là, avant d'appeler les flics et tout, elle s'est d'abord remaquillée, tu vois, quoi, pour que quand les flics arrivent, elle soit présentable.
Il y en a, ça a été plus glauque quand même dans cette ville. Hein. Je ne tiens pas à parler de certains patrons de grands groupes de presse, mais quand même. Enfin bon.
Mais ça, c'était Elvis. Donc, Elvis Presley. Donc, on va en entendre parler un tout petit peu, la semaine prochaine. Donc, jeudi prochain. Et, la télé n'est pas en reste. Et vous allez voir, ben, que même des chaînes qu'on s'attendrait pas à voir Elvis dessus, ben, ils y sont quand même, sans problème. La première apparition, c'est la semaine prochaine. C'est mercredi prochain. Donc, je rappelle que c'est jeudi prochain, l'anniversaire du 30e anniversaire de sa mort, hein, le 16 août 1977. Et alors, pour faire un petit peu numérologie tout de suite, pour déconner à fond les manettes.
Pour déconner déjà, c'est, on peut dire, les punks doivent se sentir très vieux tout d'un coup. Était 77.
Ouais, ils en avaient rien à foutre, hein, de toute façon. Bah, le punk, ça date d'avant, hein, 76
ouais,
quand même.
Vrai,
hein. ouais. Et bon, ça c'est punk anglais, hein, c'est-à-dire les poseurs, quoi. non, pour en revenir un petit peu à cette date-là, quoi. Elvis était fan absolu, hein, du film 2001, l'Odyssée de l'espace, hein, qui se repassait en boucle à fond les manettes, à tel point que le morceau d'ouverture de 2001, tu sais, Also sprach Zarathustra, le morceau de Strauss, tu sais, quand t'as la pierre qui descend et puis que t'as le singe qui est là, ce morceau, il l'a carrément repris pour son fameux concert worldwide qu'il avait enregistré à Hawaï, tu sais, le concert qui avait été diffusé par la télé un peu partout. Et l'intro de ce concert, avant qu'il rentre sur scène et tout, bah c'est ça, c'est Also sprach ainsi parlait Zarathustra de Strauss, le même morceau, donc tellement il avait flashé. Et en fait, si t'additionnes les chiffres 16, 8 et 1977, ça fait 2001. Très fort le gars. Très
ouais,
fort.
Puis je suis sûr que tu extrais la racine carrée, tu as le montant du SMIC horaire.
1977 plus 16 plus 8, ça fait 2001. Facile. Allez, bon, je laisse tomber. Elvis Presley, donc, au début. la première apparition à la télé, bah, ce sera mercredi prochain sur Paris Première. Et là, c'est vraiment...
Elvis, le pelvis.
Vraiment, franchement, quoi, un très bon choix. Parce que les apparitions télé et les apparitions sur écran d'Elvis, généralement, c'est pas tellement génial. Hein, c'est pas pour ça qu'on l'a pris. C'est pas pour ses qualités d'acteur. Du tout. Hein, il était très mauvais acteur, ça, il faut le dire, hein, quand même. Si vous avez déjà vu un film avec Elvis, vous en êtes complètement convaincu. Il n'y a pas de problème. Mais là, il s'agissait, eh bien, en l'occurrence, du NBC TV Special de décembre 68. Le comeback d'Elvis, en fait, hein, cette vue fameuse où tu vois Elvis complètement en cuir et tu sais, de la tête aux pieds. Alors que auparavant, hein, depuis le début de sa carrière, il avait pas du tout cette habitude vestimentaire. Hein, il avait plutôt l'habitude vestimentaire de mec du sud, hein, c'est-à-dire les sapes un peu voyantes,
des chemises plutôt ouvertes, relativement légères,
les petites vestes légères et tout, mais jamais le cuir. Hein, jamais le cuir. Là, c'était vraiment, hein, pour dire attends, je suis un rocker et tout, je marque le clou. Bon, mon idole, une de mes idoles, c'est quand même Marlon Brando, l'équipe est sauvage et tout le bordel, et je fais quand même du rock and roll, tu vois quoi. Et là, à l'occasion de ce concert qui a été enregistré en juin, d'ailleurs. Pour être diffusé en septembre, en décembre, sur 4 jours, quoi, pour faire environ 1h20 de concert, avec le retour de son back group originel, c'est-à-dire Bill Black à la basse, Scotty Moore. Tu es un dieu, hein, c'est un dieu pour beaucoup de guitaristes, hein, Scotty Moore. Wayne Fontana à la batterie, et donc avec la scène placée au milieu, quoi, c'est-à-dire comme un ring de boxe, hein, si tu veux, et le spectateur tout autour. Bon, ça a été recopié après tant de fois, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même le concert d'Elvis, hein, qu'il faut voir à tout prix, avec quelques morceaux dont il commence par Trouble, ensuite il y a Guitar Man, c'était un single qui était sorti l'année précédente en 67, et ensuite beaucoup de classiques, que ce soit en rock and roll, un petit peu de country et également beaucoup de gospel, c'est-à-dire la musique qu'il avait bercée et qu'il chantait depuis le départ, hein, depuis qu'il était pratiquement tout petit, avec Lodie Miss Claudie, avec Hound Dog, Heartbreak Hotel, Old Shook Up, Jailhouse Rock, chanson Noël bien sûr, Blue Christmas, et avec le medley Nothingville, Big Boss, Guitar Man, Little Egypt, Trouble, Guitar Man encore une fois, et ça termine par If I Can Dream. Enfin bref, que du bonheur, c'est magnifique, c'est génial, c'est à voir, vraiment absolument, de toute façon, parce que là il ne joue pas, comme un acteur, là vraiment il donne tout ce qu'il a.
Oui, là il est vraiment à fond.
Il balance ses tripes, c'est vraiment très très beau. Hein. C'est un des monuments de toute façon de la carrière d'Elvis, NBC TV Special de décembre 68, diffusé donc par Paris Première mercredi prochain à partir de 20h50, rediffusé vendredi prochain à 22h50. Et après ce NBC TV Special en première partie de soirée, eh bien 22h05, Hollywood Stories, Elvis les années Hollywood. Donc là, bah, on va pouvoir rigoler parce que bon, bah, généralement les Hollywood Stories, hein, c'est toujours à décharge. C'est-à-dire dans les Hollywood Stories, on te raconte l'histoire d'un
la légende dorée,
mais voilà. À fond les manettes. Ouais, il était bien, il était génial et tout. Ouais, magnifique, quel bel acteur et tout. Ouais, c'était le meilleur d'entre nous. Enfin bon, que du pipeau, mais enfin bon, c'est rigolo parce que bon, de temps en temps, on arrive quand même à tomber sur quelques petites images qu'on n'a jamais vues, quelques petits trucs intéressants. Et encore un deuxième Hollywood Story après celui-là, les derniers jours d'Elvis en deux parties, hein, les deux, hein, c'est-à-dire les années Hollywood plus les derniers jours d'Elvis en deux parties. Tout ça, c'est sur Paris Première mercredi prochain. Jeudi, le jour en fait anniversaire de commémoration de sa mort il y a 30 ans, Elvis Forever, c'est sur Arte qui nous fait une soirée spéciale Elvis, rends-toi compte, avec tout d'abord à 20h45 un film de la filmographie magnifique d'Elvis. Je vais vous en parler un petit peu à la fin. Alors là, histoire de bien se pisser dessus de rire, de toute façon. Alors le film, c'est Café Europa en uniforme. Alors bon, bah, il faut dire que la traduction des titres originaux avec les titres en français, des fois, ça a rien à voir. C'est du gros n'importe quoi, parce qu'en fait, c'est le film G.I. Blues, dont on a passé déjà un premier extrait juste avant, hein, le Frankfurt Special de Norman Taurog, sorti en 1960. Et c'est la période où Elvis, bon, justement, fait son service militaire. Il a fait son service militaire en Allemagne, du côté d'Offenbourg, pas loin de Strasbourg d'ailleurs, hein, et après il a été déplacé à Francfort. Il faut savoir que bon, bah, il avait quand même un traitement spécial parce que bon,
Comme la plupart des stars à l'époque, hein, ça a commencé pour certains. L'armée s'était rendu compte de l'intérêt des stars d'Hollywood pour essayer de motiver les jeunes à partir de la Seconde Guerre mondiale.
Ouais, mais ça c'est pendant la période de guerre. Mais après, bon, bah, pendant la période d'occupation, quoi, de l'Allemagne, que ça n'avait plus grand sens, quoi. Mais enfin, bon, c'était quand même.
Il y avait les rouges. Hein.
Ouais, mais enfin bon, quand même, hein, je veux dire, dans l'esprit d'Elvis, sudiste complet, quoi, les rouges, ils n'avaient absolument rien à battre. Alors, vraiment rien à battre du tout. Alors, ça raconte un petit peu l'histoire d'un soldat, hein, enrôlé, donc, envoyé en Allemagne, avec toujours la même trame, quel que soit le film d'Elvis, c'est toujours la même trame et tout, c'est-à-dire lui, le petit jeune qui vient d'une condition modeste et tout, et qui va affronter les aléas de la vie, qui va se trouver une petite nana et tout, mais il va y avoir une concurrence entre deux nanas, c'est-à-dire la bonne et la méchante, qui vont intriguer, hein, pour pouvoir se partager ses faveurs. Bien sûr, le bien gagnera toujours à la fin, ça c'est tout à fait évident. Hein, toujours happy ending dans les films d'Elvis. Et c'est l'occasion de voir un petit peu ce qu'il en est à l'occasion de ce Elvis Forever diffusé par Arte jeudi prochain à partir de 20h40, donc le G.I. Blues de Norman Taurog, et surtout à 22h25, alors un documentaire réalisé cette année, donc inédit, par un Allemand qui s'appelle Hannes Rosacher, qui s'appelle Elvis Orama, et qui nous propose des images un petit peu insolites d'Elvis, de tout et n'importe quoi. Un mec qui a fait une statue d'Elvis à partir de tessons de bouteilles, de tout et de n'importe quoi. Et certainement des images qui figureront dans le zapping de Canal+, ça, il n'y a pas de problème. Et à 0h25, ça va de 22h25 jusqu'à 0h25, donc 2h, hein, de ce Elvisorama sur Arte jeudi prochain à partir de 2007. Et pour illustrer encore un petit peu ce G.I. Blues, je vous propose une autre chanson extraite de l'album G.I. Blues, donc il a sorti à partir de 1960, même avant, hein, il a commencé sa carrière cinématographique en 56-57. Chaque fois qu'il y avait un film qui sortait, c'était l'occasion de sortir un disque, bien sûr, hein, de toute façon, hein, pratiquement à chaque film sorti, il y avait un film qui correspondait, entre guillemets, à la version, à la bande originale du film. Là, je vous propose un morceau, mais qui vaut son pesant de cacahuètes, parce que, en fait, c'est la transcription d'un tube allemand qu'Elvis avait entendu pendant qu'il était en Allemagne, hein, qui avait fait un carton en Allemagne, hein, signé par Bert Kaempfert, qui était le morceau d'introduction que tu passes chaque semaine.
Le Fred Rabold,
qui était le Fred Rabold de l'époque, hein, et même mieux, hein, c'était un mec qui cassait la baraque et tout, hein, c'était le chéri de toutes les mamas en Allemagne, hein, à fond les manettes, Bert Kaempfert. Et donc il avait fait ce morceau original que Elvis a traduit, et on a fait ce morceau qui s'appelle Woodenheart, et vous allez entendre, il chante également en allemand, donc le titre original de la chanson. Allez, on écoute.
And you see, I love you. Please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Muss ich denn zum Städtelehinhaus, Städtelehinhaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Muss ich denn zum Städtelehinhaus, Städtelehinhaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. There's no strings upon this love of mine, it was always you from the start. Sei mir gut, sei mir wie du wirklich sollst, cause I don't have a word.
Je tiens à vous rassurer, vous êtes bien sur éphémère, 89 points.
Eh, c'est Elvis, hein, en allemand, hein. Muss ich denn die Städtele, line in-house, un truc comme ça, quoi. Je me rappelle pas le titre.
Ja, ja, mit Schokoladen.
Ja. Wenn du bleibst hier, mein Darin, mein Schatz. Elvis toujours avec jeudi prochain, bah ouais c'est le 10, c'est le 16 août, sur Cinéma Premier, on vous propose à 20h45 le téléfilm diffusé précédemment, je me rappelle pas sur quelle chaîne, mais qui avait bien marqué parce que bon, casting première étoile, on va dire deux étoiles, trois étoiles même pour ce téléfilm, donc en deux parties, qui avait été diffusé en deux parties et qui donc là a été ramené à une seule partie, mais 2h50 quand même. La vie d'Elvis, c'est réalisé par James Steven Sadowitz avec Jonathan Rhys Meyers dans le rôle d'Elvis. Il y a également Randy Quaid, Rose McGowan et Anne Margaret, mais là qui joue plus le rôle de la petite copine d'Elvis parce que en 2005 elle était un petit peu fanée, on va dire, hein, celle qui avait partagé l'affiche de nombreux films avec Elvis et qui avait succombé à ses charmes, bien entendu, comme il se doit. Et à 23h35, toujours sur Cinéma Premier, après ce Elvis téléfilm, eh bien là c'est la perle, la cerise sur le gâteau quand même, un film qui je crois a déjà été diffusé par Ciné Frisson, et c'est normal, c'est bien dans le cadre, hein. C'est un film de Don Coscarelli de 2002 qui s'appelle Booba Hotep. Et qu'est-ce que c'est Booba Hotep ? Eh bien, ça raconte l'histoire de Bruce Campbell, magnifique, Bruce Campbell et Dossie Davis, qui se prennent respectivement pour Elvis Presley et John Fitzgerald Kennedy, et qui sont une maison de retraite.
Ah oui !
Et c'est absolument génial, c'est grand, c'est
Thomas,
magnifique.
Thomas, on a dit un immense bien.
C'est
ce
magnifique, hein, que dire de plus ? Regardez ce film, ça vaut le coup. Alors bien sûr, c'est un film d'horreur. Mais ça, on le découvre seulement dans la deuxième partie. Ça vaut surtout pour eh bien, la réflexion sur la condition humaine, sur la vieillesse, sur des petites choses comme ça, avec un Bruce Campbell qui est absolument magnifique, hein, génial. Et qui reprend justement cette idée que Elvis n'est pas mort. Non, parce qu'en fait, lui, il raconte que c'est lui, Elvis, mais qu'il a que c'est un chanteur comme ça qui s'amuse à imiter Elvis, mais c'est lui le vrai Elvis, et que il a laissé un autre eh bien, prendre sa place, et donc mourir à sa place, en fait, pour que lui, bah, il puisse... rester tranquille dans son coin et faire ce qu'il veut, c'est-à-dire juste chanter la musique qu'il aime sans avoir tous les inconvénients, hein, du vœu d'Etaria.
On vous dira pas ce qui est arrivé à JFK, c'est encore plus drôle.
Ah ouais, non mais là il faut dire que si Bruce Campbell est génial dans ce film, aussi Davis défunt aussi Davis qui est mort depuis, hein, qui lui, alors il est black et il s'imagine que c'est lui JFK, tu vois. Alors voilà, c'est terrible, terrible. Alors là, c'est vraiment c'est magnifique, c'est un film excellent, ne serait-ce que pour la performance de ces deux acteurs. Booba Hotep, donc, de Don Coscarelli en 2002, diffusé jeudi prochain à 23h35 après le téléfilm Elvis. Et il y a surtout, eh bien, le marathon Elvis sur TCM, jeudi prochain avec.
Tiens donc, je suis pas surpris.
Toute la journée, de 7h40 du matin jusqu'à 1h35 de la nuit.
Turner est allé chercher loin là.
Que des films d'Elvis. Alors ça commence à 7h40 avec Le Tombeur de ses Demoiselles de 66 de Norman Taurog. Alors ce qui est vachement bien, c'est que. Pardon. Entre chaque film, eh bien, il y a un petit interlude qui dure 10, 15 minutes, 20 minutes et qui s'appelle Dans les coulisses, dans lequel quelqu'un qui a bien connu Elvis, eh bien, intervient et raconte quelques petites anecdotes comme ça, mais pas que, parce que à 9h10, c'est-à-dire après le premier film, Le Tombeur de ses Demoiselles, dans les coulisses, eh bien, c'est Kurt Russell qui vient parler d'Elvis pendant 10 minutes. Et quand on sait, mais quand tu sais que Kurt Russell a été l'interprète d'Elvis, a interprété Elvis dans le film, le téléfilm de John Carpenter, sorti en 1979, si je ne m'abuse, dans lequel on a découvert Kurt Russell, en fait, hein, c'était en New York 1997, et dans lequel il interprète Elvis absolument génialement. C'est génial, hein. Moi j'ai vu ce film, je me suis dit putain c'est pas possible, il est génial cet acteur. Et il l'a confirmé par la suite. Enfin, c'est Kurt Russell quoi, quand même quoi. Hein. Franchement quoi.
Ouais. Alors, celui qui après a fait Call Me Snake.
Et c'est tout à fait légitime qu'il parle d'Elvis de toute façon. Alors ensuite, toujours sur TCM, jeudi prochain à 9h20, Micmac au Montana, un film de 68 de Peter Tewksbury, à 11h dans les coulisses avec Joe Esposito, qui faisait partie de la bande de copains qu'il avait, qui habitait à domicile, qui allait lui chercher des bières, la défonce, des femmes et tout ça, hein, où qu'il soit, hein, c'est-à-dire en tournée.
Tiens, c'est marrant, ça me rappelle Bob Marley.
Il y a également, alors à 11h10, c'est La Fête au Harem, le titre original c'est Harem Scarum, un film de 65 de Gene Nelson, avec dans le rôle féminin principal Marianne Mobley. À 12h45 dans les coulisses avec Jerry Shillings, un autre pote à lui, Elvis. À 13h15, Blonde, Brune et Rousse de 63 de Norman Taurog, dans le titre original It Happened at the World Fair, avec Stella Stevens dans le rôle principal féminin. À 15h dans les coulisses avec David Stanley. À 15h10, la stripteaseuse effarouchée. Le titre original c'est Girl Happy, un film de 65 de Boris Sagal. À 16h55, À plein tube, un film de 68 qui dont le titre original est Speedway. Celui-là je l'ai vu, il est pas trop dégueulasse en plus. À 18h35, là ce n'est plus un film mais c'est le Elvis Show de 1970. Là déjà avec le costume blanc, avec les trucs incrustés, tout le bordel, et que je t'en jette et tout, mais c'est Elvis sur scène donc ça vaut le coup, hein, y a pas de problème. À 20h45, là c'est les films qui sont les plus connus, L'amour en quatrième vitesse, La rencontre d'Elvis avec Anne Margaret, donc le film de George Sidney 64 dont le titre original est Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Voilà, bon bah OK hein, il le chante d'ailleurs dans le film. Et à 22h20, le film le plus connu et certainement le meilleur film d'Elvis, Le Rock du Bagne, Jailhouse Rock de 57 de Richard Thorpe. À minuit, toujours sur TCM, Elvis Tour 72, la suite de la tournée, après le Aloha from Satellite from Hawaii, là, le fameux concert en Mondovision. Et à 1h35 du matin, Croisière Surprise, un film de 67, dont le titre original est Double Trouble, et c'est encore un Norman Taurog. Alors, la carrière d'Elvis en film, c'est quand même 31 films. De 56 à 69, il a tourné 31 films. Le premier, Love Me Tender.
Qui est
traduit par Love Me Tender, on connaît la chanson quoi, je crois qu'il la chante même pas dans le film, et le titre en français c'est Le Cavalier du Crépuscule, c'est un western en plus, et il joue le rôle de Clint Reno. Et ensuite le deuxième film qu'il fait c'est Loving You en 57, également une chanson hein, d'Elvis, dans lequel il a le rôle d'un certain Dick Rivers. Ah ouais, eh ouais, d'accord, ne cherchez plus
tout. D'accord,
non mais c'est Dick qui me l'a dit, hein, c'est pour le
dire. En 69... gaffe, il habite dans le quartier en plus. Dick,
ouais. Donc son premier film c'est Love Me Tender en 56, son dernier film c'est en 69, Change of Habit de William Graham avec Mary Tyler Moore et Edward Asner. Ah bah ouais, hein, quand même. Ensuite quelques films comme ça quoi, parce que bon bah au fur et à mesure de sa filmographie, on se rend compte que bon bah dans ses films il y avait des gens qu'on connaît et qu'on apprécie pas mal quoi quand même. Le King Creole de 58 48, c'est quand même Michael Curtis qui le fait, quoi. Bon, Michael Curtis, c'est tous les films avec Errol Flynn, les meilleurs Errol Flynn, hein, quand même dans les années 40, hein. Michael Curtis, merde, avec Walter Matthau, hein, qui joue dans King Creole, l'histoire de Danny Fisher, quoi. En 60, Flaming Star, tourné par Don Siegel. Inspecteur Harry, mais ouais mon gars, avec Barbara Eden, avec Dolores Del Rio. En 61, Blue Hawaii, c'est le premier, il en a fait deux ou trois avec Hawaii comme cadre, avec Angela Lansbury, qui joue le rôle de la nana, qui c'est la méchante, qu'elle veut pas que la gentille elle se fricote avec Elvis. Ah là, elle est magnifique, Angela Lansbury. En plus, elle est jeune, quoi, tu vois, donc bon, ça va, quoi. Arabesque, hein, Angela Lansbury. Hein. Ok, en 62, Kid Galahad avec Charles Bronson. le film de Phil Carson. En 63, Fun in Acapulco avec Ursula Andress de Richard Thorpe.
En 63, alors, ça va, Acapulco, ça devait être
bien. Fun in Acapulco, alors c'est l'histoire de... Il joue le rôle d'un jeune premier qui, je crois, il est serveur dans le resto. Et alors, c'est l'histoire de cette fameuse falaise où les mecs, ils plongent de vachement haut, tu sais, quoi. Et donc, il y a l'histoire et tout, que ouais, est-ce qu'il va plonger, est-ce qu'il peut le faire et tout. Et puis bon, devant toutes les nanas, et t'as les ricains qui sont là, qui arrivent...
ils viennent par quarantier juste pour voir, payer les mecs et
pour
tout.
Pour être à l'aise, parce que bon, bah, ils sont au Mexique, ça coûte pas cher, alors tu les vois sur la terrasse et tout, puis tu vois les jeunes Mexicains qui sont là, qui plongent et tout, de 20-25 mètres dans la falaise et tout, et que si tu plonges trop à droite et tout, il y a le rocher, et tu te tues, enfin bon, et tout ça. Et Elvis plonge, tu vois.
C'est beau, c'est magnifique. Sinon, je peux vous dire ce rocher, enfin plus exactement en bas du rocher, le meilleur coin pour prendre les photos, c'est nickel. Hein.
Ok, ok. On verra ça hors antenne. En 64, Roustabout de John Rich avec Barbara Stanwyck. En 66, Paradise Hawaiian Style de Michael Moore, mais c'est pas le même. En 67, Clambake de Arthur Nadel avec Bill Bixby, Hulk. Bill Bixby, mon gars. En 68, Stay Away Joe de Peter Tewksbury avec Burgess Meredith et Joan Blondell. 68 également, Speedway, donc le film dont on parlait avant, avec Nancy Sinatra et encore Bill Bixby. En 68 encore...
C'est pas là où elle chante, c'est These Boots Are Made For Walking?
Non, je crois pas, parce que bon, ça lui aurait pas plu à Elvis ni au Colonel Parker que quelqu'un lui pique la vedette, tu vois. Là, vraiment, ça lui aurait pas plu, hein, de toute façon, quoi. Non, c'est l'histoire, il est coureur automobile et tout, quoi. C'est comme dans Viva Las Vegas, c'est pareil, quoi, tu vois, où les coureurs automobiles, il y a une rivalité entre deux pilotes et tout, le méchant pilote italien qui va essayer de faire pousser la voiture dehors pour qu'il ait un accident mortel. Ah, là, là, quel méchant, qu'il est vilain. En 68, encore un film de Norman Torog, Live a Little, Love a Little, avec Dick Sargent, qui a été le deuxième mec d'Elizabeth Montgomery dans Ma Sorcière Bien-Aimée. Après Dick York, qui était malade et tout, donc ils ont dû le remplacer.
Qui arrive en saison 4, je crois. Même 5,
hein. Dick Sargent, donc, hein, le deuxième mari de Elizabeth Montgomery.
Celui qu'on connaît plus en France, puisque les premiers épisodes étaient en noir et blanc, donc voilà.
Et en 69, The Trouble with Girl, avec John Carradine, Vincent Price, Joyce Van Patten et Dabney Coleman. Hein, c'est pas du beau monde, ça, encore un film de Peter Tewksbury. Pour te dire que dans la carrière d'Elvis et tout, bon, si lui a pas été franchement génial, et ben il y en avait quand même qui étaient là pour sauver les meubles et rattraper un petit peu ce qu'il y avait à rattraper, hein, vu surtout ce dont on parlait dans ce genre de film. Voilà, donc à propos de cette filmographie d'Elvis Presley. Alors, n'oubliez pas donc, hein, sur TCM la journée Elvis jeudi prochain à partir de 7h40 du matin jusqu'à 1h35, que des films d'Elvis, génial, très beau, ah génial.
Oui. Yeah.
Enfin une journée, on n'aura pas besoin de réfléchir.
Oui. Yeah.
Que du bonheur, quoi, tu vois. Allez, tu me mets encore un morceau d'Elvis.
Ah,
mets-moi le numéro 5. Alors, le numéro 5, donc le titre du film G.I. Blues, c'est le morceau G.I. Blues, donc qui sera à l'affiche, donc qui sera dans votre petit écran jeudi prochain sur Arte à partir de 20h45, sous le titre génialement traduit Café Europa en uniforme, un film de 1960 de Norman Torg, G.I. Blues.
Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Give me a muddy old creek in Texas, any old time. I got those hop, toot,
street for occupation GI blues. From my GI hat to the heels of my GI shoes. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. We'll get Hoss and Pfeffer and Black Pumpernickel for chow. We get Hoss and Pfeffer and Black Pumpernickel for chow. I blow my next month's pay for a slice of a Texas cow. We'd like to be heroes, but all that we do here is mar. We'd like to be heroes, but all that we do here is march. And they don't give the Purple Heart for a falling arch. I got pulled up to for an occupation GI blues. From my GI hat to the heels of my GI shoes. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. The Fraulein's are pretty as flowers, but we can't make a pass. The Fraulein's are pretty as flowers, but we can't make a pass. Cause they're all wearing signs saying keep it to you off the grass. I got put up, two, three, four, occupation GI blues. From my GI hat to the heels of my GI shoes. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. Occupation GI blue. Occupation GI blue. Ready.
C'était le supplément week-end émission numéro, je vérifie, je crois que c'était la 123e, puisqu'on en était dans la chiffrologie là de bazar. 13h27 minutes et 45 secondes sur l'horloge atomique de la radio, et donc pas de résumé puisque Thomas n'est pas là. Du sport, lui, va prendre la suite tranquillement. D'ailleurs, il vient de se remettre au micro en Qatar.
Ouais, non, mais parce que j'avais oublié de dire que dans le cadre justement de cette commémoration du 30e anniversaire, Radio Éphémère a décidé, non, c'est moi qui ai décidé, de vous faire un petit truc sur Elvis. Ce sera, là, on a beaucoup parlé de la filmographie d'Elvis, mais bon, Elvis, ça reste quand même la musique, hein, principalement. Et donc, vendredi prochain, après Hard Mag, à partir de 15h, donc 15h10, eh bien, je vous ferai un petit topo sur la musique d'Elvis, sur ses influences, tout le bordel. Ça durera une heure et demie, on verra. Enfin bon, je vais vous préparer ça au chaud, tranquille. Hein. Donc, la semaine prochaine, spécial Elvis, donc à partir de 15h, 15h10 sur Radio Éphémère, vendredi prochain.
Zikologie complète. Donc, en attendant la suite des programmes sur Éphémère, la poubelle des radios, donc du sport de suite pour les résultats sportifs, en direct des vestiaires, de l'infirmerie et des prétoires. 16h, Big Bang, c'est du rock, si je me trompe, non, c'est du reggae, c'est du reggae. 18h, Vie d'ordure, c'est...
Two Step Garage.
Merde, c'est la musique que j'aime en flûte. 19h, Made in Trance, pour se la jouer cool sur le platine et dub. 20h, la Cetero Experience, c'est du grand n'importe quoi tant que c'est électronique. 21h30, Stay Tuned. Et à 23h, donc le potager, le programme qui concerne la musique live, sera donc désormais en nocturne. Voilà, je vous laisse rendez-vous la semaine prochaine à partir de midi dans le supplément week-end sur Radio FMR. Et sinon, vous pouvez aller sur le site internet radio www.radio-fmr.net ou chercher supplément FMR, supplément week-end ou supplément week-end MP3. Et ça nous fera plaisir, vous aurez les infos. Voilà, moi je vous quitte, rendez-vous la semaine prochaine. Et pour ceux qui savent, à tout à l'heure au Toulouse Carnet.